Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et bien on la commence en parlant des fêtes. Alors en ce moment c'est la période des fêtes de fin d'année, mais dans la presse c'est aussi la fête à Macron et à la Macronie, une Macronie qui semble dépassée par la vague de colère jaune qui s'abat sur le pays. Le Monde en effet souligne que les hauts fonctionnaires sont tous désignés comme responsables de tous les maux de l'exécutif. Du premier secrétaire de l'Élysée à Bruno Le Maire, ils sont tous des crânes d'œufs déconnectés de la vie réelle. Je cite ici un élu de la majorité dont on taira le nom.
Et j'imagine qu'il n'y a pas que lui qui s'en prend gentiment au gouvernement.
Et oui, bien vu. Dans l'édito du Point, François-Olivier Gisbert cite Pagnol avec une ironie perceptible. « Révolution est un mot mal choisi parce que ça veut dire un tour complet. Ceux qui sont en haut descendent jusqu'en bas, puis remontent ensuite à leur place primitive et tout recommence. » Et le journaliste de continuer en dressant un portrait peu enthousiasmant de la situation, mentionnant Philippe qui procède à un saupoudrage social façon catalogue de la redoute, ou Le Pen, chantre de cette France périphérique zappée par la gauche qui a maintenant un boulevard devant elle. Dans le Figaro, le journaliste Pierre Le Pelletier, lui, nous propose un retour sur, je cite, « les quatre couacs majeurs de l'exécutif, de la suspension puis l'annulation des taxes sur les carburants » à Philippe qui annule les mesures de novembre avant de faire marche arrière. En conclusion, des faux pas qui montrent bien l'incapacité du gouvernement Macron à tourner, comme il le souhaitait, la page des couacs et des approximations de l'ère Hollande, et ça, c'est Libération qui nous le dit. En parlant de couacs, voyons voir ce que nous dit le Canard. Eh bien, rien de bien original, si ce n'est qu'il reste encore beaucoup de ronds-points d'interrogation.
D'ailleurs, ces ronds-points ont, je crois, une place centrale dans la chronique que Sylvain Tesson publie cette semaine dans Le Point.
Et oui, dans les pages du Point, en effet, l'écrivain aventurier livre une critique sans complaisance du mouvement de ceux qui occupent les ronds-points, ces ronds-points pustules de la mondialisation sur la face du territoire. Alors qu'il rentre de Syrie, un pays ruiné dont les habitants n'ont pas le goût pour le désordre et se relèvent en silence, il découvre des gilets jaunes qui se croient en enfer dans un pays auquel la gratuité des soins, les APL, la subvention à l'université et j'en passe, devraient pourtant donner un air de paradis. Et comme Tesson est un irréductible voyageur, il ose la comparaison. La révolte jaune serait comme un fleuve, fait de sources distinctes et n'ayant pour homogénéité qu'une seule couleur. Une révolte qui d'ailleurs devient miroir d'un monde livré à un esprit managérial conduit par, je cite, « les quatre totems hideux de la modernité, accélération, circulation, innovation et massification ». Et Tesson ensuite de s'insurger contre la surveillance de la pensée et du comportement. Parce que oui, pour lui, boire une boutante de picrate en beuglant que les mahométans commencent à nous les briser avec leur gymnastique ne devrait pas faire de vous un criminel. En bref, selon lui, le peuple français élevé dans la mystique révolutionnaire fait l'erreur de croire que désordre et anarchie sont une réponse au mal-être et à l'injustice.
Une injustice dont la Croix a fait sa une du jour.
Et oui, parce que si les gilets jaunes, pardon, ces invisibles d'hier, ne le sont plus vraiment, il y en a d'autres qui demeurent oubliés de la majorité, les SDF. La Croix a donc choisi de rencontrer ceux qui vivent dans le sous-sol de la Défense et d'insister sur le contraste flagrant entre deux mondes. D'un côté, le monde d'en haut, des sièges d'entreprise du CAC 40, symbole du capitalisme triomphant, des premiers de cordée dans des bilots rutilants, 70 tours et 500 entreprises. Et de l'autre, le monde d'en bas. Un millefeuille d'infrastructures et de vides propice à des abris de fortune, des parkings et des voies de livraison. Au fil du reportage, on y rencontre Didier, 50 ans, qui dort près d'une desserte de livraison dans 1 mètre carré de béton et affirme avoir choisi la liberté. Mais aussi Sébastien, qui a élu domicile dans un hall d'ascenseur irradié de néons blafards, ou Ludwig, qui raconte ses galères dans des clips de rap filmés avec son iPhone. Un contraste frappant, donc, qui ne semble pas émouvoir la directrice sécurité de la Défense, qui confie, depuis son bureau design avec fausse rivière incrustée dans la moquette, que malgré la bienveillance, il faut aussi faire face aux enjeux de sécurité, de salubrité et d'attractivité du site. La bienveillance sur laquelle il faudra compter, ce sera donc celle de Mourad Toussaint, gérant de l'association du site de la Défense, qui tente de lutter contre la toxicomanie et la violence, ou de Mylène, 70 ans, bénévole dans la Maison de l'Amitié, qui apporte un soutien précieux aux jeunes comme Conan, qui écrit « Une vie de SDF dans l'espoir de trouver un éditeur » et qui organise des ateliers et des sorties au Louvre.
Une situation dramatique que l'on ne trouve pas uniquement à la Défense, n'est-ce pas ?
Eh bien oui, les associations de lutte contre le mal-logement nous le rappellent dans un entrefilet de Libération. À Paris, le 17 décembre, 500 personnes ont appelé le SAMU sans obtenir d'hébergement, et si à Lyon, le nombre de places en logement a certes été multiplié par 4 depuis 10 ans, la population qui appelle le SAMU, elle, a été multipliée par 20.
D'ailleurs, pour la nouvelle année, que nous prédisent les journaux ?
Eh bien, rien de bien réjouissant. Pour le point, ce sera Macron, en pré-retraite à 41 ans, une France qui souffre d'une gilet jaunite chronique et une Europe qui s'enfoncera dans le populisme aux élections européennes. Et pour le nouvel Obs, un pays qui portera toujours les stigmates de la fièvre jaune. Vu la situation, on comprend donc pourquoi d'autres quotidiens préfèrent se projeter un peu plus loin que l'année 2019.
D'ailleurs, en parlant de publicité, tu as...
Par exemple, l'Humanité consacre un article au commandement militaire spatial et à l'armée spatiale réclamée par Trump, qui verra sans doute le jour en 2020. 800 millions de dollars pour étendre la concurrence avec la Chine jusque dans l'espace, pas si enthousiasmant. Pas si enthousiasmant non plus ce que le monde nous propose de découvrir et qui nous rappelle l'univers de Big Brother. Le système des Safe Cities, organisé autour d'outils de surveillance des espaces publics, dont Nice et ses 2200 caméras de surveillance, est un prototype inquiétant. Mais la start-up française TooOne va plus loin, en développant un outil qui pourrait décrypter les émotions des habitants grâce à un algorithme basé sur l'architecture des réseaux neuronaux, capable de découper notre visage en milliers d'articles, en milliers d'extraits à analyser. Combler ou frustrer ses clients de centre commercial, enthousiaste ou agressif ses supporters, eh bien rien ne pourra échapper à ces données qui serviront soi-disant à mesurer le bien-être des habitants et à améliorer la sécurité. Sceptique ou convaincu, méfiez-vous quand même, la prochaine fois que vous regarderez un panneau publicitaire, des caméras intégrées aux écrans seront peut-être en train de scruter votre visage pour déterminer votre niveau de satisfaction face au produit proposé.
D'ailleurs, cette fois-ci c'est la bonne, en parlant de publicité, tu as je crois un produit à nous proposer.
Et oui, puisque si vous n'avez pas d'idée de cadeau, eh bien Éric Zemmour, j'étais sûre que ce nom allait vous réjouir, a un petit conseil pour vous. Le livre d'Ingrid, tu vas pas être déçu, hein. Le livre d'Ingrid Riocreux, Les marchands de nouvelles, qui dénonce les sempiternels mensonges des médias, qui, c'est bien connu, s'obstinent à croire que le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam ou qu'un meurtre conjugal commis par une femme est excusable. Un livre qui constitue une analyse du travail d'endoctrinement de ce puissant et irrésistible fleuve médiatique qui pervertit nos esprits pour mieux les soumettre à sa loi, à la manière d'un régime totalitaire, dixit Monsieur Zemmour.
Idée de cadeau de Noël.
Voilà, parfaitement. Le cadeau parfait.
Alors, pour nous remonter un peu le moral, est-ce que tu n'aurais pas autre chose ?
Alors si, j'ai pour vous la une du Parisien qui affiche le portrait d'un Kylian Mbappé triomphant qui fête aujourd'hui ses 20 ans. 20 ans et 13 buts en 23 matchs de Ligue des Champions, soit un meilleur score que Ronaldo et Messi au même âge.
Et le mot de la fin ?
Eh bien, pour un peu plus de poésie, sortons des terrains de foot et perdons-nous dans les pages culture du monde qui nous invitent à un peu d'imaginaire et nous apprennent que le Petit Palais consacre une exposition inédite au dessin de Jean-Jacques Lequeux, un architecte et dessinateur qui s'attache à créer des monuments imaginaires où s'entremêlent sources psychologiques et mythologiques, minérales et organiques, sensuelles et mystérieux, en bref, un bâtisseur de fantasmes pour reprendre le titre de l'exposition. Un peu d'imagination et d'onirisme dont on a bien besoin.
Chouette.
Merci Marie.